de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il juge ses erreurs, il renonce ou veut renoncer aux frivolités du monde, avec un grand M, là où lui semblaient pourtant parfaites toutes les personnalités. Un romancier, un personnage de roman, le narrateur d'À la recherche du temps perdu, pas encore. Un autre personnage de roman signé par le même écrivain, un roman qui n'eût jamais dû être publié. Et encore, un roman. Puis-je appeler ce livre un roman, écrivait Marcel Proust. Ce livre n'a jamais été fait, il a été récolté. Le 4 juin 1953, pour l'un des volets d'une série intitulée Marcel Proust, moraliste, la duchesse Edmée de la Rochefoucauld s'intéressait au Jean sans œil de Marcel Proust.
En évoquant la vie d'un écrivain disparu, il me semble toujours difficile de ne pas contester l'exactitude du beau vers que Mallarmé écrivit pour le tombeau du poète Edgar Poe et de le voir tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Car la postérité modifie constamment l'optique sur les auteurs, poètes, romanciers, essayistes, etc., et même parfois les dédouble. N'a-t-on pas aujourd'hui découvert deux Homères au lieu d'un Homère dont l'existence avait été niée par une autre génération. Non, Marcel Proust, en fermant les yeux, le visage pâle, raidi dans son collier de barbe noire tel que l'a dessiné Dunoyer de Segonzac, Marcel Proust ne prenait pas un aspect définitif. Je ne parle pas de sa dépouille mortelle, mais de celui qu'il fut vivant et de l'auteur inspiré, laborieux, subtil, scrupuleux, d'À la recherche du temps perdu, d'Albertine disparue, du temps retrouvé et autres ouvrages, partie d'une énorme autobiographie où on trouvait place, figurait, transfigurait ou défigurait un certain nombre de ses contemporains. Depuis le 19 novembre 1922, jour ou plutôt nuit de sa mort, car il s'éteignit rue Hamelin à 4h du matin à l'âge de 51 ans, épuisé par une longue bronchite entre les bras de son frère, le docteur Robert Proust, et en présence de la fidèle céleste Albaret, bien des traits nouveaux du défunt, que Barrès à ses funérailles appelait « notre jeune homme », ont apparu. Il n'a cessé de rayonner. Barrès, lui-même, comme le rappelle André Mauroy dans son remarquable ouvrage, devait comprendre que Marcel, sous des apparences de jeune homme, était un grand homme. Des critiques, des mémorialistes, des adversaires même, en devaient modifier, compléter, éclairer sous des jours d'hiver l'œuvre et l'âme. Rares sont ceux qui ne se sentent pas à présent devant une somme difficilement inépuisable. Et voici qu'à cette œuvre s'est ajouté récemment un ensemble de 3 volumes publiés comme une sorte de roman, Jean sans œil. L'histoire de ce manuscrit est par elle-même singulière. Madame Gérard Mante-Proust, nièce de Marcel, le découvrit en piteux état à l'occasion d'un déménagement dans un carton à chapeau en cendronier de la rue Alfred Déodinck. Toutes les feuilles en avaient été déchirées, prêtes à être jetées. Devant ce tas de papiers couverts de la longue écriture de Marcel, fallait-il obéir à ce qui semblait un désir de l'auteur et ne pas songer à publier une œuvre abandonnée? Pourtant, puisque ce texte mutilé n'avait pas été détruit, il y avait lieu de réfléchir sur la véritable intention de Marcel Proust. Pour notre plaisir, pour notre édification, pour la mémoire de son oncle, Madame Gérard Mante consentit à confier ce manuscrit, véritablement en pièces, à Bernard de Fallois, qui, patiemment, en recolla les éléments, groupa les feuillets en chapitres et donna à ceux-ci un ordre vraisemblable. Ainsi avons-nous pu pénétrer plus avant dans la vie du jeune homme et, remontant les années, nous retrouver plus proches de l'adolescent qui avait écrit en exergue sur ses pages. Puis-je appeler ce livre un roman ? C'est moins peut-être, et bien plus, l'essence même de ma vie recueillie sans y rien mêler, dans ces heures de déchirure où elle s'écoule. Ce livre n'a jamais été fait, il a été récolté. Or, ce livre récolté contient en des chapitres parfois sans lien, sans suite. quantité de révélations sur la jeunesse de Marcel Proust et sa formation. Il évoque ses rencontres d'amis élégants, le fils du duc de Réveillon. Il définit sa sensibilité déjà si personnelle à l'art, à la nature, aux êtres. C'est pourquoi l'histoire de Jean Santeuil, qui ressemble comme un frère à Marcel Proust, celui du côté de chez femme, mais dont nous suivons plus aisément ici la vie en épisode détaché, réaliste, a déjà fait couler beaucoup d'encre, et de la meilleure, par la plume de Claude Mauriac notamment, par celle d'André Mauroy, de Georges Cataoui, en attendant la parution de la thèse sans doute magistrale que prépare le révélateur, le metteur au jour de l'œuvre Bernard de Fallois. Pour nous, la lecture de Jean Santeuil, qui semble avoir été abandonné par l'auteur vers 1900, quand il n'avait que 29 ans, apporta des éclaircissements à ce que nous appellerons, faute d'une expression plus simple, la conscience morale de Marcel Proust. Nous entendons par là le sens du bien et du mal qui existe en chaque être humain sous n'importe quelle latitude et qui a existé en tout temps, mais bien entendu avec la réserve que faisait déjà Pascal après Montaigne, à savoir qu'il est en éthique des points de vue différents, vérité en deçà, erreur au-delà des Pyrénées. Lorsque s'écoulait à Illé, en Normandie, l'enfance de Marcel Proust, né, je le rappelle, à Paris, d'une famille aisée, le 10 juillet 1871, le monde, depuis 1815, si l'on excepte l'essor de la grande industrie, le monde que connaissaient les Européens de la grande Europe, n'avait pas beaucoup changé. Et les problèmes qui s'y posaient n'étaient pas encore ceux dont Giorgio, Kessler, Menotti dans le Consul nous ont offert la terrible peinture. On n'avait pas à chercher une explication morale à des maux qui dépassent le tragique normal, si j'ose dire, du sort des humains. Mais de tout temps, ici-bas, depuis qu'existent les humains, il y a eu des questions de conduite à suivre, d'intérêts personnels à examiner, des passions à contenir, de l'injustice à constater et, en face de tout ceci, des esprits observateurs, scrupuleux, inquiets et sages, pour peser nos actions, donner des conseils, formuler des jugements moraux. Il peut paraître déconcertant de chercher un moraliste en Marcel Proust, peintre de vices étranges, de curieux complexes sadiques, que révèle par exemple l'épisode de la jeune fille laissant une amie profaner le portrait de son père. Un romancier est cependant, par le tableau qu'il nous trace des désordres d'un personnage, à peu près certainement un censeur des mœurs. Marcel Proust avec Jean Santeuil n'usurperait pas ce titre. Il faut noter, dès le début de ce roman, publié en 1952 après la mort de l'auteur de Sodome et Gomorre, quelques pages dignes d'un traité pour la pratique de la vertu. Tout l'ouvrage, copieux inachevé, qui fut, nous l'avons dit, détruit volontairement et une fois retrouvé et reclassé au mieux, se développe dans un climat généralement moral. Les défauts des gens, les actes mauvais sont relevés, condamnés, même chez les autres. Le snobisme à demi-innocent qui anima sans cesse l'âme proustienne. Au dernier chapitre, l'écrivain abandonne la notion bourgeoise du bien et du mal. Il se dévoile soudain. Seuls vont compter dorénavant pour son héros quasi autobiographique les conditions de l'inspiration. Jean Santeuil n'aura plus que la morale du penseur, du poète, du romancier, singulièrement pénétrant que fut à la fois Marcel Proust, celle qui consiste, parfois au prix d'expériences subversives, à écrire, à bien écrire, à écrire ce qu'on veut écrire. En fait, lorsqu'on lit Jean Santeuil, le récit est fait à la troisième personne, alors que Proust dira « je et moi » du côté de Chesvan, on ne peut pas ne point être frappé par la fréquence du point de vue moral ou d'une certaine résonance morale dans les jugements et le songe intérieur de Marcel Proust. Un égoïsme d'enfant choyé est d'abord mis en relief par l'auteur qui apprécie, sous le nom de Jean Santeuil, l'agrément d'un foyer bien pourvu et jouit du confort qui lui fut accordé par sa famille. La boule d'eau chaude, les oreillers nombreux, la tasse de café du matin seront toujours, il est vrai, pour Marcel Proust, éternel enfant, malade constant, des plaisirs, des nécessités appréciables. Il en aperçut dès ses jeunes années le charme. Pourtant, son instinct généreux va découvrir de quel prix il paye cette douceur de vivre. Il nous en fait la confidence, et comme il lui arrivera souvent, aboutit à une pensée sentencieuse.
Jean ignorait encore que pour avoir une belle oie rôtie qui, magnifiquement membrée et brillante de jus, excitait dans son palais des désirs innocents, il avait fallu épouvanter une bête, lutter avec elle, lui tordre le cou et faire couler des mares de sang par l'évier de la cuisine. De même, il ignorait que, soigneuse et souriante dans la salle à manger avec les maîtres, Ernestine dans la cuisine et dans l'office faisait pleurer la fille de cuisine, la frappant à tout propos de son ironie, de son mépris, de ses injures, de ses calomnies. Bientôt, au risque de ne plus trouver de place, l'une après l'autre, elles partaient. Ainsi, Ernestine ne craignait pas de voir un autre pouvoir s'élever peu à peu à côté du sien. Les malheureuses filles avaient beau ne pas dire pourquoi elles partaient, Madame Sureau le savait bien. Il n'y a pas une seule chose qui soit entièrement connue, mais il n'y en a pas une seule qui soit entièrement caché.
Plus loin, reprenant le même thème, Marcel Proust le développe, la conscience troublée, jusqu'à atteindre à la sévérité et à la grandeur d'un orateur de la chair du XVIIe siècle.
Quel que soit notre désir de justice et de charité, notre bienveillance ira toujours au coiffeur qui nous rasera sans nous couper, fixera exactement la mèche qui nous distinguera dans le monde, au cocher de fiacre dont la voiture est propre, et qui nous mène au galop où nous avons affaire, au risque de le faire prendre en grippe par le patron et peut-être renvoyer. Nous ne prendrons pas le garçon plein de cœur qui reçoit dans l'arrière-boutique les taloches des garçons plus adroits et plus méchants, qui nous coupent, nous coiffent d'une manière ridicule. C'est ainsi que les moutons, les poulets et les bœufs, dont nous supportons sans y penser l'agonie parce qu'elle est nécessaire à nos régales, ne sont pas les seules victimes innocentes que nous laissons chaque jour sacrifier. Le bien-être, la coquetterie, la gourmandise, le luxe sont des souverains aimables dont des crimes innombrables, commis chaque jour depuis des siècles sans avoir été une seule fois punis, entretiennent la félicité et assurent l'empire.
Telles se présentent avec leur ton classique les premières réflexions morales de l'auteur. Pourrait-on soutenir que la manière d'aimer la nature chez Proust entre dans la morale? Jean Santeuil caresse les lilas, s'étonne de la beauté des collines, admire un étang. On estimera, on dira, qu'il y a là un fond d'âme noble et pur. Cet amour est cependant peut-être simplement une forme de l'amour de soi. Nous associons les paysages à nos émotions. Quand nous les revoyons, ils nous restituent celles-ci. Fixer les yeux sur les couleurs rares d'un soleil couchant, respirer le parfum d'une fleur, c'est préparer en nous à des dates indéterminées. Le retour d'images, de sentiments, d'idées qui furent nôtres et nous furent chères. Aimer la nature de la sorte, c'est aimer ce que l'on fut, c'est s'aimer soi-même. Proust voit dans les spectacles environnants un moyen de retrouver le temps, c'est-à-dire la substance même de sa vie. La grise journée d'automne qu'il a aimée, le chemin qui sèche après la pluie, les premiers vents froids, en se représentant à nouveau à lui, permettent à l'écrivain de s'enivrer de son passé. Mais nous touchons là au mécanisme même du génie proustien. Nous verrons, dans un instant, à quelle philosophie le conduisent les impressions retrouvées. Disons un mot d'abord du snobisme, travers élevé par Marcel Proust à la hauteur d'un thème littéraire. Marcel Proust ne s'est jamais caché d'être snob, d'aimer le monde, la manière d'agir, de se parler, de recevoir, de ceux qui en font partie. Les grands noms et les titres le grisent. Chez Saint-Simon, historien de la cour et de ses vanités, il y a concurrence, rivalité avec les ducs de son époque. Chez Marcel Proust, il n'y a qu'admiration. Pour quelle raison est-il si heureux de fréquenter le fils de la duchesse de Réveillon? Jamais il n'évoque le passé glorieux des familles dont il parle, ni ne porte intérêt à telle scène historique vécue par leurs illustres aïeux. C'est le monde tel qu'il est de son temps, le monde entre 1890 et 1914, qui éveille son attention, son amour, son indulgence, son respect. Et ceci sans doute à cause du caractère esthétique de l'existence, des façons de ces gens qu'il peint. Car Proust, il suffit d'ouvrir ses ouvrages pour s'en convaincre, est extrêmement sensible à la beauté, à l'élégance, aux formes et nuances harmonieuses. Il décrit la nature, nous l'avons vu, avec un souci singulier et pur des lilas, des arbres ou des couleurs du ciel. C'est avec une fraîcheur analogue qu'il aborde les aristocrates, qu'il reproduit les traits, les vêtements, les coiffures, les éventails des personnages qu'il rencontre ou aperçoit dans les salons, les loges de l'opéra ou les châteaux anciens. Il en observe aussi le comportement. Ceci d'ailleurs lui donne l'occasion de reprendre son ton de moraliste du XVIIe siècle, et comme il peindra le lâche, il peint l'ambitieux qui cache son ambition pour ménager mieux son avenir. Voici un passage sur l'ambition d'un jeune homme appelé Antoine.
Le vieux prince de Brême, sachant par Frédéric combien son ami était pauvre, avait voulu l'aider. Antoine avait tout refusé, sans doute par une probité naturelle, et aussi par cette logique obscure de l'ambitieux qui sacrifie instinctivement les plaisirs du présent pour acquérir la réputation durable d'un désintéressement absolu, aussi utile aux satisfactions futures de sa passion que lui sont funestes les satisfactions passagères du bien-être et de la vanité.
Rappelons que le texte de Jean Santeuil est souvent émaillé de maximes comme celle-ci.
Les sentiments humains, les liens de famille et de société, les sujets de conversation ne se singularisent pas avec le rang.
Ou cet autre.
Notre amabilité avec les autres nous retire tout droit à leur respect.
On y trouve également une étude des sentiments de l'amour, de la jalousie, dont il est superflu de louer la finesse, la tristesse, et qui lui donne l'occasion de citer La Bruyère.
Rien ne ressemble plus à la vraie amitié de ces liaisons que nous cultivons dans l'intérêt de notre amour.
À l'égard de son goût personnel pour les gentils traits, il est clairvoyant, il l'analyse, il en perçoit les motifs. Voici une sorte d'aveu.
Certains êtres humains désirent, parce que ne le connaissant qu'en imagination, ils ne le connaissent qu'en beau, ce qui leur a toujours manqué. La courtisane désire le respect ou l'amour, certains hommes le chic. Ce qui fait aussi que tant de jeunes filles ou de jeunes gens nés de parents dont la profession ou la race fut dédaignée, lâchent leurs amis, gâchent leur bonheur, engagent leur fortune, donnent leur vie pour avoir un noble comme témoin dans un duel ou comme invité à sa table. Il est à remarquer que les gens de lettres, fils souvent de parents pauvres, et voyant le monde d'ailleurs à travers leur imagination qui embellit tout, font souvent au monde un sacrifice qui chez eux est plus grand que pour d'autres, puisqu'il ajoute à tous les biens immolés que nous venons de dire, l'amour de la solitude, les joies de la vie intérieure, la profondeur de leurs pensées, la dignité de leur vie, la solidité de leur gloire.
Et Marcel Proust conclut à la page suivante.
L'écrivain ira vers des êtres que son snobisme même ne lui fait pas croire plus puissant, mais lui fait paraître plus charmant que d'autres. Le désir étant dans le snobisme, comme dans l'amour, le principe et non l'effet de l'admiration. Il ne s'éprendra pas des duchesses parce qu'il les aura froidement jugées plus désirables que d'autres, mais il les jugera plus désirables parce qu'il est instinctivement épris.
Rien d'étonnant à trouver chez un moraliste un goût affirmé pour les personnes parfaites. Aux yeux de Marcel Proust, ces personnes parfaites sont bien souvent, semble-t-il, celles du monde, d'une société au postulat mystérieux qui incarne une sorte de perfection esthétique. Des critiques ont souligné l'apparition dans Jean Santeuil, où se trouve déjà en somme Proust tout entier, de la fameuse théorie de la mémoire, devenue plus tard célèbre avec l'épisode de la Madeleine imbibée de thé. Rappelons encore une fois que, d'après cette théorie, la vie ne nous serait perceptible vraiment que dans le souvenir et dégagé du temps. Le chapitre 9, intitulé « Impressions retrouvées » dans le volume 2, serait trop long à citer complètement. Il est à lire avec attention, d'autant plus que le style y est particulièrement subtil et compliqué. Jean Santeuil nous confie là l'importance, pour son génie, de ses sensations évocatrices. Il ne se sentait tenu d'écrire que quand un passé ressuscitait soudain dans une odeur, dans une vue qu'il faisait éclater et au-dessus duquel palpitait l'imagination, et quand cette joie lui donnait l'inspiration. Y a-t-il là quelques sentiments d'ordre moral? Oui, et même mystique. Car, notez-le bien, pour Marcel Proust, l'imagination est l'organe qui sert l'éternel. Nous relève peut-être aussi nous-mêmes, en nous montrant à nous-mêmes si heureux, dès que nous sommes dégagés du présent, comme si notre vraie nature était hors du temps, faite pour goûter l'éternel et mécontente du présent, attristée du passé. Certes, une telle profession de foi est révélatrice. Elle nous en apprend beaucoup sur les résultats de l'introspection personnelle à laquelle le remarquable psychologue se livrait, et elle aboutit en effet, et nous voudrons la retenir, à la règle de conduite mentale ci-dessous, qui suit immédiatement la dernière citation et par laquelle s'achève le chapitre des impressions retrouvées.
C'est pourquoi vivons, connaissons toutes les heures, soyons tristes dans des chambres, ne nous désolons même pas trop d'avoir vécu dans des voitures élégantes et dans des salons. Nous ne savons pas quel jour, où nous chercherons la beauté dans une montagne ou dans un ciel, nous la trouverons dans le bruit d'une roue de caoutchouc ou dans l'odeur d'une étoffe, dans ces choses qui ont flotté sur notre vie où le hasard les ramène flotter encore, mais mieux armés cette fois-ci pour en jouir, détruisant leur image passée de leur réalité présente, nous arrachant à l'esclavage du présent, nous inondant du sentiment d'une vie permanente.
Ce sentiment d'une vie permanente n'a rien qui choque le croyant à la conscience. Affirmer que notre vraie nature est faite pour goûter l'éternel, encore moins. Mais ne nous hâtons pas de conclure. Pour que se produise l'illumination de sa mémoire, Jean Santeuil, qui aura le courage de condamner finalement la vie frivole du monde et son propre snobisme, va être amené, ainsi que nous allons le voir, a créé une sorte de morale spéciale à l'écrivain. Jean Santeuil, en vivant au cours des expériences ou des événements contemporains publics, a peu à peu évolué. Un certain scepticisme sur les valeurs morales a atteint son esprit au moment des grands procès politiques. Dans le second volume, après avoir cité quelques exemples d'accommodement avec la discipline ou de dureté dans la justice, il en arrive à écrire...
Nous aimons l'homme de la loi qui, à un moment, sait se rire de la loi, et l'homme de discipline qui sait, à un moment, nous dire « Tâchez de passer à côté de la discipline ». Alors, nous ne nous sentons plus trop incoupables, puisqu'un homme d'honneur semble prendre la moitié de notre faute. Nous avons toujours le respect du juge militaire, mais nous voyons le général tout de même dire « Le mieux serait de ne pas trop passer devant lui ». Et nous sentons que le bon droit, l'innocence, la vérité, pour cet homme qui connaît la vie et les hommes qui sont même ses honnêtes juges, ce n'est pas tout, et que c'est même peu de choses.
Il faut cependant arriver au bout du troisième volume pour prendre connaissance de l'éthique proustienne. Jean Santeuil est peint ici plus âgé. Il s'est habitué à aller dans le monde, il en paraît rassasié, il en dénonce la frivolité. Le moment est-il venu de juger sa vie, de regretter ses erreurs? Jean Santeuil fait plutôt un simple retour sur lui-même.
On n'aurait pas pu dire que la vie du vieux maître fut bien morale. Mais il semblait ne pas s'en soucier et agir avec une sorte d'impudeur. Et d'autre part, il ne se donnait aucune peine pour les autres et ne se dévouait nullement. Et pourtant, sans doute, il n'en avait pas été toujours ainsi. Il avait été un temps où, tête blonde caressée par des parents qu'il faisait quelquefois pleurer, ses vices avaient été pour lui quelque chose à quoi il ne cédait pas sans grande lutte et qui lui donnait de longs remords. Et pendant les moments où, faisant des choses machinales, il pensait à ce qu'il aurait dû faire et sentait de vifs regrets, ce n'était pas comme maintenant aux pages qu'il aurait dû faire, à l'inspiration qu'il aurait dû retrouver que ses pensées se reportaient avec découragement, mais à d'autres actes dont il espérait encore alors passionnément de pouvoir s'abstenir.
Jean Santeuil, écrivain, prend néanmoins son parti, car le mal avait changé pour lui depuis quelques années. Laissons-le formuler lui-même sa nouvelle éthique.
L'enfance, où l'on fait le mal sans le connaître, et la jeunesse, conflit des désirs et des devoirs, tant où les habitudes commençantes ne sont pas encore connues que comme des penchants, et sont étroitement mêlés aux remords et aux résolutions, était passé. Peu à peu, le don de poésie qui était en lui, lui était devenu le centre de sa vie morale, et ses luttes de conscience avaient pris une autre forme. Le bien était ce qui favorisait son inspiration, le mal, ce qui la paralysait. Les habitudes de boisson, en tant qu'elles ne le rendaient pas malade et qu'il avait su les régler, une certaine oisiveté sensuelle, n'empêchait nullement ses rêveries, la fécondité de son esprit. Le raisonnement, la charité, le souci exclusif de la politique, la vanité auraient au contraire sur elle une mauvaise influence. Ainsi, l'art l'avait-il peu à peu modelé, l'avait fait à sa ressemblance immorale, soucieux seulement de pensée et de beauté.
Nous voyons la transformation, la transmutation des valeurs. Le don de poésie était devenu le centre de sa vie morale et ses luttes de conscience avaient pris une autre forme. Et voici désormais l'impératif catégorique de l'écrivain. Le bien était ce qui favorisait son inspiration, le mal, ce qui la paralysait. Marcel Proust, avec Jean Santeuil, nous l'avons constaté, ne négligea nullement les questions morales. Comment sa sensibilité frémissante fut-elle restée impassible devant les injustices sociales? Comment cet enfant tendrement veillé par sa mère n'eut-il pas gardé au long de son existence la nostalgie de la vertu? Comment la vanité, l'ambition, la lâcheté des humains eût-elle pu ne pas inspirer à cet observateur de l'âme des réflexions morales? L'aspiration vers l'éternel l'a également marqué. « Notre vraie nature est hors du temps », a-t-il écrit. C'est Marcel Proust, et c'est le dernier et précieux aveu de Jean Santeuil, en est arrivé à identifier le bien à ce qu'il inspirait, à adopter une morale exclusive d'écrivain. Sachons-lui gré, au moins, d'avoir été un très grand écrivain, c'est-à-dire un découvreur, si j'ose dire, de nouveaux aspects de l'âme humaine.
C'était Marcel Proust, moraliste, Jean Santeuil, par la duchesse Edmée de La Rochefoucauld. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 4 juin 1953. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».